Dans Malomer, il y a une ferme qui appartient à une famille, c'est la famille Louis. En français, c'est la famille Louis. Quand Beckett a traduit le texte en anglais, ça devient la famille Lambert. On dit, c'est bon. On peut dire peut-être c'est parce que Lambert, c'est un nom un peu plus anglais, ça fait, c'est plus naturel. Mais en fait, si on lit les deux textes l'un après l'autre, si on juxtapose les textes, ça forme Louis Lambert, qui c'est le roman de Balzac. C'est une allusion à Balzac, en fait. C'est un roman qui a pas mal de points en commun avec Malhomer. Et Beckett lui-même introduit une sorte de piste dans la version en anglais où il traduit ces histoires à crever en français, ça devient en anglais All this ball-shaking poppycock. Donc, ball-shaking, ça devient Balzac. Ball-shaking, c'est la piste pour trouver l'allusion à Balzac, qui n'est pas évident, qui est impossible de l'identifier dans les textes en français, dans les textes en anglais. C'est seulement dans la juxtaposition de deux textes que ça s'ouvre, que ça émerge, que ça apparaît. En fait, je pensais, il y a quelque chose, il y a un phénomène qu'on appelle cryptolangage. Un cryptolangage, en fait, c'est un langage qui est développé par des jumeaux pour se communiquer entre eux. C'est un langage qui n'est pas compris par personne, sauf les jumeaux qui l'inventent. Ici, on a des textes jumeaux et on a une sorte de cryptolangage, parce que les textes se parlent entre eux d'une manière qui n'est pas évident si on est dehors des textes, si on n'est pas l'auteur. Donc, pour trouver cette relation entre les textes, je pense qu'une édition parallèle a du sens. On pourrait aussi faire une édition back-to-back. Donc, on pourrait traduire la version en français et la version en anglais séparément. En deux textes en espagnol et les publier dos à dos, tête beige, ou consécutivement dans le même volume. Il faut se rappeler qu'un anglais back-to-back, en fait, peut dire littéralement dos à dos, mais aussi l'un après l'autre. Donc, il y a trois possibilités. Une version dos à dos, qui, on peut voir les dessins, c'est ça, on a le texte en espagnol du français, et on a le texte de l'autre côté, le texte en espagnol de l'anglais. Une version dos à dos, en fait, ça c'est plutôt deux livres identiques qui sont rattachés par la quatrième de couverture. Donc ça forme un livre qui, en fait, a deux textes et qui peut être lu, en théorie, par deux personnes, un de l'autre côté, un de ces côtés-ci, en même temps. C'est difficile, mais quand même, c'est possible. Une édition de tête beige serait un peu plus conventionnelle. L'édition de pêche, comme on sait, n'a pas de quatrième de couverture, a deux premières de couverture. On lit un texte dans son sens. Le texte fini, si les deux textes ont la même longueur, finit au milieu du livre. Et après, on renverse le livre. De l'autre côté, on a l'autre texte, qui aussi finit au milieu du livre. Donc, les deux fins sont juxtaposées aussi, back to back, de ça. Ou on peut publier un texte conventionnel, un texte normal, il y en aurait une traduction d'anglais après l'autre, consécutivement un texte après l'autre. On aurait les deux versions, on aurait les deux textes en espagnol, ça serait bimonolingue aussi, mais il n'y aura pas de texte parallèle qui quand même peut être, si peut créer des interférences. C'est plus difficile de lire, je pense, un texte en parallèle. Donc c'est une version un peu plus normale, et aussi la version dos à dos, même plus que la version tête bêche. Ça serait un livre objet, mais ça serait aussi une manière de transformer les textes jumeaux en textes siamois. Ce sont des textes jumeaux rattachés. Et aussi, il y a un côté un peu fric qui souligne l'aspect peu orthodoxe de l'autotraduction et la traduction d'une autotraduction. Beckett aurait détesté, je pense, cette option, parce qu'il était contre tous ceux qui soulignaient l'aspect expérimental de deux textes. Il disait même qu'il s'opposait aux versions parallèles, même si après il a consenti à faire des éditions parallèles, parce que ça montrait les œuvres comme une sorte d'aventure bilingue. ce qu'il ne voulait pas. Mais quand même, quand on est traducteur, on n'est pas, le but, ce n'est pas de faire une séance de spiritisme pour voir qu'est-ce que l'auteur aurait aimé faire, mais aussi il s'agit d'explorer un peu les possibilités. Donc, une édition que j'appelle crypto-parallèle. On pourrait traduire les deux textes jumeaux et les publier en deux volumes apparemment identiques, sans que rien n'indique qu'il y a plus d'une traduction en circulation. On aurait, par exemple, Molot traduit du français, et après Molot secrètement traduit de l'anglais. Donc, comment est-ce que ça marcherait? Là, on aurait tous les avantages d'une édition parallèle. Chaque personne aurait donc son indépendance physique, son autonomie. On pourrait lire un livre après l'autre. Et aussi, il y a, parce qu'il faut réfléchir qu'avec une édition parallèle, que je pense qu'on a sauté, avant il y avait une édition volume parallèle qui c'est plus conventionnel, c'est plus normal. On pourrait traduire la version en français et la version en anglais et les publier séparément en deux volumes. Les avantages, on peut choisir acheter une, pas acheter l'autre version. On peut lire la version en espagnol du français tout d'abord et après la version en espagnol de l'anglais après. Ou on peut lire première la version en espagnol de l'anglais et après la version en espagnol du français. On peut lire les deux ensemble un peu, pour mélanger. On peut ignorer le fait qu'il y a deux versions. Choisir, les deux versions pourraient circuler en même temps. On pourrait faire un tirage partagé, de manière solomonique. On pourrait faire, au lieu de faire 2000 exemplaires d'une version, on pourrait faire 1000 exemplaires de la version de l'anglais, 1000 exemplaires de la version du français. Les lecteurs pourraient choisir. Ça a pas mal d'avantages, je pense. Donc, après, l'édition crypto-parallèle, ça a plusieurs causes. Parce que c'est pas évident comment faire une édition parallèle au niveau des problèmes légaux. Par exemple, ma traduction, on a négocié les droits avec Édition Minuit. Et ils sont les droits en français. Mais en anglais, c'est Grove Press qui publie la trilogie, mais aussi Everyman's Library. Et la trilogie en anglais a été publiée par pas mal d'éditeurs, par pas mal d'éditions, maisons d'édition en anglais. Donc, qui a les droits de la version en anglais? Mystère. Est-ce qu'on devrait parler avec les héritiers? Est-ce que c'est la chance littéraire qui a les droits? Est-ce qu'il faudrait payer deux fois pour une édition parallèle? C'est la même chose, c'est une sorte de combo. On paye pour une version, on a l'autre. Est-ce qu'on peut choisir? Est-ce qu'on risque des problèmes légaux? L'avantage d'une édition crypto-parallèle, c'est que bon, peut-être que personne ne se rendrait compte de ce qu'on a fait, donc on évite des problèmes pour l'instant, des problèmes légaux. Aussi, la chose serait, est-ce que quelqu'un vraiment verrait qu'il y a deux versions? Est-ce que ça sauterait aux yeux, ou est-ce que par exemple on pourrait trouver une critique qui critique un passage de la version en français, du français? Et après notre critique, non, il ne sait pas lire. Évidemment, la version ne dit pas ça. Ici, on peut voir, évidemment, qu'il a appris, etc., etc. Avec une édition crypto-parallèle, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on publie le livre et après, on fait la révélation qu'il y a deux versions? Est-ce qu'on attend? Est-ce qu'on attend pour voir si quelqu'un se rend compte? Est-ce que ça, c'est une surprise? Est-ce qu'on commence à raconter ça, ce qu'on informe quelques-uns, quelques écrivains, quelques journalistes, quelques traducteurs. Donc c'est une sorte de conspiration. Est-ce que ça croise? Est-ce que ça diminue? Est-ce que ça c'est... ça forme une société des crypto-lecteurs de Beckett? Je ne sais pas. C'est quand même une possibilité. Après, on pourrait faire une édition de luxe. Ça c'est une édition parallèle, un coffret, box set. On pourrait traduire et la version en français et la version en anglais de chacun des trois romans de la trilogie et les publier séparément en six volumes, en trois coffrets de deux. Donc on a Molloy, l'espagnol du français, Molloy, l'espagnol de l'anglais, Malhomme, espagnol français. Malhomme, espagnol bilingue. Et l'innombrable, espagnol du français. Et l'innombrable, espagnol de l'anglais. Donc ça donnerait, je pense, une aire de respectabilité à l'expérience de traduire le guide en édition parallèle. Et c'est pas la seule option, parce que on pourrait aussi distribuer les volumes, deux coffrets, les trois volumes, un pour les versions du français et l'autre pour les versions de l'anglais. Donc on aurait monologue espagnol du français, malhomme espagnol du français et l'innombrable espagnol du français, mais aussi monologue espagnol de l'anglais, malhomme espagnol de l'anglais et l'innombrable espagnol de l'anglais. Ou on pourrait en plus publier les six volumes dans un seul coffret. Donc, Molo, l'espagnol, du français, Malamuel, l'espagnol, du français, et l'innombrable, l'espagnol, du français, mais Malo, l'espagnol, de l'anglais, Malamuel, l'espagnol, de l'anglais, et l'innombrable, l'espagnol, de l'anglais. Il y a aussi une autre possibilité, qui c'est la possibilité, en fait, qui m'intéresse le plus. Ça serait de faire un volume du traducteur. Donc on pourrait traduire seulement une version de la trilogie, parce que c'est plus pratique, et la publier avec un volume à part, écrit par le traducteur, ou parmi d'autres choses, on recenserait les différences entre les textes jumeaux. Donc on aurait la trilogie traduite, en coffret ou pas, et après le volume du traducteur. Donc qu'est-ce que c'est un volume du traducteur ? En fait, il n'y a pas de limite. Ça pourrait être un inventaire des notes. On pensait une édition annotée, mais on disait que les notes, c'est un peu trop chênant. Bon, on pourrait publier la version sans notes, mais toutes les notes seraient dans les volumes du traducteur. Ça ferait on pourrait les appeler des sexonotes. Ce sont des notes qui sont dehors le livre. Donc, on n'aurait plus d'espace. On pourrait même parler des choses en détail, avec un détail époustouflant, pour les parler de tout, de chaque différence, même de chaque différence imaginée, possible, entre les deux versions. On pourrait parler des anecdotes, on pourrait parler des détails, on pourrait parler pas mal de choses, de l'expérience même de la traduction. On pourrait parler des cours, les parcours professionnels des traducteurs, l'expérience, ça pourrait être un journal de traduction aussi, avec l'information sur les deux versions. Ça pourrait être une introduction à la trilogie, ça pourrait être aussi une sorte d'exoduction à la trilogie pour sortir de la trilogie. Ça compenserait les jumeaux qui manquent, ça serait une manière de remplir, pour ainsi dire, le vide. Ça ferait aussi ça serait un quatrième volume de la trilogie, ça deviendrait une trilogie de quatre livres. On pourrait aussi recenser les différentes manières de traduire un texte double, des textes jumeaux, mais qu'on n'a pas fait. Donc on pourrait parler de crypto-traduction, de traduction crypto-parallèle, de traduction parallèle, on pourrait les décrire, les proposer, les explorer, etc. Mais sans risquer des problèmes avec mon éditeur, par exemple.